Voici une question dont la réponse pourrait vous amener à naître de nouveau. Comment pouvons-nous savoir si nous sommes réellement des croyants? La Bible va nous donner la réponse de Dieu aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je vous encourage à porter une attention particulière aux réponses que la parole de Dieu va nous donner aujourd'hui. Si vous avez déjà une relation personnelle avec le Seigneur, ces réponses vous affermiront. Et si vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus intimement, vous saurez comment entrer dans une relation extraordinaire et permanente avec lui. Voici donc les questions qu'on va poser à l'Épître aux Hébreux aujourd'hui. À qui le Seigneur Jésus-Christ est-il supérieur? Qu'est-ce qui se produit quand une personne a une relation personnelle et intime avec le Seigneur Jésus? Que représente Jésus pour une telle personne? Où est Jésus présentement? Qui est Melchizédek? Que signifie son nom? Comment pouvons-nous savoir si nous comptons parmi les croyants pour lesquels le Seigneur Jésus intercède? Comment Jésus nous parle-t-il? Restez des nôtres, l'Épître aux Hébreux va répondre à chacune de nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Merci, mon Dieu, tu as la réponse à toutes nos questions. Aide-nous à toujours être ouverts à entendre ce que tu veux dire à nos cœurs. Enseigne-nous aujourd'hui. Nous t'écoutons, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Aujourd'hui, nous débutons l'étude du chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux. Dans les prochains chapitres, nous allons nous arrêter sur la fonction de grand prêtre du Seigneur Jésus. Avant de vous présenter la personne de Melchisédek en introduction à ce sujet, récapitulons ce que nous avons dit depuis le début de l'Épître. Premièrement, nous avons vu 4 avertissements jusqu'ici. Ceux-ci s'appliquent encore très bien à nous, bien qu'ils aient été donnés à une communauté hébraïque à l'époque des apôtres, avant la destruction de la ville de Jérusalem et du Temple. Quels sont les 4 avertissements reçus jusqu'ici? Premièrement, nous avons un avertissement de ne pas nous éloigner des choses que nous avons entendues. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Citation d'Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4. Deuxièmement, nous avons un avertissement au sujet de douter de la parole de Dieu. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Hébreux chapitre 3, versets 7 à 9, ainsi que chapitre 4, versets 1 et 2. Troisièmement, nous avons été avertis de ne pas devenir lents à comprendre. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Hébreux chapitre 5, versets 11 et 12. Si nous négligeons la méditation et l'étude de la parole, nous demeurons des enfants spirituels et nous n'atteignons pas la maturité que nous devrions avoir. Quatrièmement, nous avons reçu un avertissement au sujet du danger de tomber. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Hébreux chapitre 6, les versets 4 à 6. Nous avons examiné 6 interprétations pour ce passage d'Hébreux chapitre 6, versets 4 à 9. Et nous avons retenu la thèse que ce texte ne s'applique pas à la repentance qui conduit au salut, mais aux récompenses reçues pour les œuvres que nous avons accomplies lors de notre marche chrétienne. À qui le Seigneur Jésus-Christ est-il supérieur? Nous avons vu que le Seigneur Jésus est supérieur à toutes les créatures et aux personnages importants de la Bible. Premièrement, nous avons vu que le Seigneur Jésus est supérieur aux prophètes. En effet, il est Fils de Dieu, héritier de toutes choses et créateur de l'univers. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Deuxièmement, il est supérieur aux anges. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ». Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit « Que tous les anges de Dieu l'adorent ». De plus, il dit des anges « Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu ». Mais il a dit au Fils « Ton trône, ô Dieu, est éternel ». Hébreux chapitre 1, versets 4 à 8. Dieu appelle Jésus-Christ Dieu et il demande aux anges de l'adorer. Seul Dieu peut être adoré. Troisièmement, il est supérieur à Moïse, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Hébreux, chapitre 3, les versets 3 à 6. Quatrièmement, Jésus-Christ est supérieur à Josué. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Hébreux, chapitre 3, versets 8 et 9. Le Seigneur Jésus comble notre âme et nous ouvre la porte du ciel. Il nous donne un repos éternel supérieur à vivre dans le pays de Canaan. Cinquièmement, il est supérieur au sacerdoce lévitique. Nous sommes encore sur ce sujet aujourd'hui et nous le serons toujours à la prochaine émission. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Hébreux chapitre 4, verset 14. Jésus-Christ s'est présenté devant Dieu après avoir versé son sang sur la croix pour expier nos péchés. Le souverain sacrificateur lévitique devait offrir un sacrifice pour ses péchés et ensuite un sacrifice pour le peuple. Ensuite, il pénétrait dans le lieu très saint où se trouvait l'arche de l'Alliance. Cela se faisait une fois par année. Nous pouvons aller en présence de Dieu en tout temps en passant par le Seigneur Jésus, notre grand prêtre. Après avoir abordé le sujet du sacerdoce lévitique, de celui de Jésus-Christ, l'auteur de l'Épître s'est interrompu pour donner deux avertissements, soit le troisième et le quatrième que nous avons mentionnés il y a quelques minutes. nous revenons maintenant au sacerdoce de Jésus-Christ. Sommes-nous conscients que nous avons un grand prêtre dans le ciel? La suite de l'Épître aux Hébreux traite du Seigneur Jésus-Christ qui est vivant et qui est présentement assis à la droite de Dieu dans les cieux. C'est un sujet qui est négligé dans nos églises aujourd'hui. Nous parlons beaucoup de la mort expiatoire et de la résurrection du Seigneur Jésus, et c'est merveilleux. Cependant, nous devons vraiment prendre conscience que le Seigneur Jésus est vivant, qui est à la droite de Dieu et qu'il exerce un ministère en faveur des croyants aujourd'hui. Celui pour lequel cette vérité est une réalité est en communion personnelle et intime avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est un baromètre qui nous permet d'évaluer notre vie spirituelle. La grande vérité sur laquelle nous nous pencherons dans la suite de l'Épître influencera notre vie spirituelle. L'auteur va maintenant comparer le sacerdoce de Melchisédek, un homme qui personnifie Jésus-Christ, à celui d'Aaron, le premier grand prêtre établi par Dieu sur Israël. Chers amis, débutons la lecture d'Hébreux chapitre 7, verset 1. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit. L'expression « en effet » relie ce qui a été dit précédemment à ce qui va suivre. L'expression nous ramène à ce qui a été dit au verset 20 du chapitre 6. Melchisédek est une personnification de Jésus-Christ. Dans le récit historique de la Genèse, Melchisédek est appelé roi de Salem et un sacrificateur du Dieu Très-Haut. C'est ce que nous lisons dans Genèse, chapitre 14, les versets 17 à 24. Le texte nous dit presque rien à son sujet. En fait, c'est un personnage que nous oublierions ou dont nous ne tiendrions probablement pas compte si Dieu ne nous l'avait pas rappelé à notre souvenir dans le psaume 110, et si ce rappel ne nous amenait pas à nous interroger sur la signification de l'expression selon l'ordre de Melchisédek. Dans le psaume 110, l'Esprit de Dieu nous donne une prophétie au sujet du Seigneur Jésus. « Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. » Le psaume 110, le verset 4. Nous vivons sous le régime de la grâce où Jésus-Christ exerce ses fonctions de grand prêtre en faveur des croyants. Ce régime est appelé une dispensation dans les milieux théologiques, et c'est justifiable puisque ce mot emprunté de l'anglais traduit un mot qui se trouve dans le texte grec de la Bible. Une dispensation ou un régime réfère aux différentes périodes des relations entre Dieu et l'humanité. Dieu traite de différentes manières avec l'humanité au cours de chaque période ou sous chaque régime. Nous sommes justement devant un exemple. Sous le régime de la loi dans l'Ancien Testament, Aaron était le grand prêtre, et le peuple avait construit un tabernacle selon les instructions divines. Aujourd'hui, nous sommes sous le régime de la grâce. Jésus-Christ est notre grand prêtre, mais il n'exerce pas son ministère dans un temple. Il est présentement au ciel, assis à la droite de Dieu. Bien qu'il n'y ait que deux références à Melchisédek dans l'Ancien Testament, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous en parle beaucoup et nous fait découvrir l'importance du personnage. Au verset 10 du chapitre 5, il a dit « Dieu, l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. » Il a dit aussi « Là où Jésus est entré, pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Hébreux chapitre 6, verset 20. Maintenant, dans ce premier verset du chapitre 7, il ajoute « En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit. » Nous allons donc en apprendre davantage sur ce personnage. Le verset clé de ce chapitre est le verset 17. « Car ce témoignage lui est rendu. » Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Puisque nous allons traiter du fait que le Seigneur Jésus-Christ est un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, lisons le récit de Genèse chapitre 14 qui se rapporte à ce roi de Salem et sacrificateur du Dieu Très-Haut. Lisons ensemble Genèse chapitre 14 versets 1 à 20. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Élazar, de Kedar-Laomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bircha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Amma, à Shéméhéber, roi de Tsiboïm, et roi de Béla, qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedar-Laomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedar-Laomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Rephaïm à Ashtéroth-Carnaïm, les Uzim à Ham, les Imim à Chavé-Kirjataïm, et les Oriens dans leur montagne de Sir jusqu'au chêne de Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent vers Ain-Mishpat, qui est Kadès, et bâtirent les Amélicites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoriens établis à Hatsatson, Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tsepoïm, et le roi de Béla, qui est Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim. Contre Kedar-Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Élazar. 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Échol, et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedar-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Melchisédek est un roi et un sacrificateur qui est venu à la rencontre d'Abraham après sa victoire sur les envahisseurs du territoire de Sodome et de Gomorre. Notez que la maison d'Abraham était devenue grande et puissante puisqu'il a pu armer 318 hommes. Si l'on tient compte que ces hommes avaient des femmes et des enfants, la maison d'Abraham devait compter facilement 1000 personnes. Abraham désirait principalement secourir son neveu lorsqu'il a appris la capture des villes. Cependant, il a aussi libéré le peuple de ces villes. Il a refusé de prendre une part du butin, mais il a accepté que ceux qui sont venus avec lui en prennent une part comme salaire. Melchisédek et Abraham ont-ils pris le repas du Seigneur? Melchisédek est venu à la rencontre d'Abraham en apportant du pain et du vin. Des chrétiens affirment que les deux hommes ont pris le repas du Seigneur. Les deux patriarches attendaient Jésus-Christ 2000 ans avant sa venue. Cependant, Dieu n'en avaient pas encore suffisamment révélé au sujet de Jésus-Christ pour que Melchisédek et Abraham aient pris le repas du Seigneur en étant conscients de ce qu'ils faisaient. L'idée est intéressante, mais nous ne pouvons pas en faire un dogme de foi. Si les deux hommes ont vraiment pris le repas du Seigneur, Dieu leur a nécessairement accordé une révélation, et ils ont pris le repas par la foi. Une foi qui atteignait une grandeur exceptionnelle. Lisons le verset 2 d'Hébreux chapitre 7. « Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. » Des commentateurs pensent que Salem est la ville de Jérusalem. Je ne pense pas que cela soit vrai. Salem n'est pas un endroit, car le mot Salem veut dire paix. L'auteur ne dit pas que Melchisédek était roi de Jérusalem. Il était le roi de la paix. Il était un homme qui pouvait apporter la paix à son époque. Je suis certain qu'il était le roi d'une ville quelconque, mais rien ne prouve que cette ville était Jérusalem. Il était le roi de paix, mais il aurait pu régner sur n'importe quelle ville. Que signifie le nom Melchisédek? Melchisédek était aussi un roi de justice. C'est ce que signifie son nom. Melech est un mot hébreu qui signifie roi, et Tzedek signifie justice. C'est ce mot que nous trouvons aussi dans le livre de Jérémie. Le prophète appelle Dieu l'Éternel notre justice, et dans le texte hébreu, c'est l'expression Jéhovah Tsekenu qui est utilisée. Melchisédek était le sacrificateur du Dieu Très-Haut, et le Seigneur Jésus-Christ est notre grand prêtre. Nous poursuivrons le parallèle entre Melchisédek et le Seigneur Jésus-Christ à la prochaine émission. Pour l'instant, j'aimerais vous poser une question importante. En fait, j'aimerais terminer avec cette question importante. Comptez-vous parmi la multitude de croyants pour laquelle le Seigneur Jésus intercède? Est-il votre grand prêtre? Nous avons probablement tous un pasteur, un prêtre, un ministre du culte que nous consultons lorsque nous avons des problèmes, en particulier des problèmes spirituels et des problèmes d'ordre moral. Cependant, le Seigneur Jésus-Christ est-il notre berger, notre pasteur, une personne que nous consultons? D'abord, je souligne le fait que le Seigneur Jésus ne peut pas être votre berger, ni votre grand prêtre, si vous ne l'avez pas reçu comme sauveur personnel pour obtenir le pardon de vos péchés et l'assurance de la vie éternelle. Si nous avons invité le Seigneur Jésus dans notre cœur afin qu'il nous sauve, il est notre grand prêtre et il intercède pour nous auprès de Dieu. Cependant, comment nous parle-t-il? Jésus-Christ est en Dieu, est présent partout et nous savons qu'il entend nos prières. Mais comment nous répond-il? Par sa parole, mes amis, par la Bible. C'est pour cette raison qu'il est important de méditer et d'étudier sérieusement la parole de Dieu. La Bible est l'instrument dont Dieu se sert pour se révéler à vous. Vous lui exprimez votre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour vous par la prière. Vous lui ouvrez votre cœur, vous lui parlez de vos joies et de vos chagrins, comme vous le feriez avec une personne intime avec vous. Son esprit communique avec votre esprit. C'est ce que signifie adorer en esprit et en vérité. Il répond à tous vos besoins. Mes amis, si vous ne l'avez pas encore fait, recevez le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel. Jésus est la seule porte qui conduit au ciel vers le Père Céleste. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, les versets 2 à 19. À vous tous, bonne lecture.
Merci, Régent. J'ai été fortement réconforté par l'enseignement qu'on a reçu aujourd'hui. Spécialement quand tu as dit que nous devions vraiment prendre conscience que le Seigneur Jésus est vivant, qu'il est à la droite de Dieu et qu'il exerce un ministère en faveur des croyants aujourd'hui. Et tu as ajouté que celui pour qui cette vérité est une réalité est en communion personnelle et intime avec le Seigneur Jésus. Mes amis, quand j'étais toute jeune, je m'imaginais que Dieu était un Dieu inaccessible, qu'il était là-haut dans le ciel, dans un endroit qui était bien trop élevé pour que je l'atteigne. Je me souviens que je voulais en savoir plus à son sujet que ce que j'apprenais dans mon petit catéchisme. Donc, je posais des questions à des personnes religieuses à l'école et à l'église, mais les réponses étaient vagues, ou bien on me disait que c'était un mystère, et j'étais tellement déçue. Je me souviens que j'allais à l'église dans l'espoir de découvrir quelque chose de fantastique, de surnaturel, et j'en ressortais bredouille. Mais le jour où une personne qui connaissait réellement Dieu s'est mise à me parler de lui, de son amour pour moi, de cet amour qui était si grand, qu'il avait donné son Fils unique Jésus, afin qu'en croyant en lui, je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle, j'ai su dans mon cœur que la vérité se présentait enfin à moi. Et j'ai posé des questions, et j'ai appris que Dieu était accessible, mais uniquement par Jésus. Puisqu'il a dit lui-même, quand il est venu sur la terre, qu'il était le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne pouvait aller au Père sans passer par lui. Et j'ai appris que Jésus s'était laissé crucifier sur cette croix pour payer la dette de mon péché. J'ai su que ce n'était pas les clous dans ses mains et ses pieds qui l'avaient retenu sur cette croix, mais son amour pour moi. Moi qui avais cherché le grand amour toute ma vie et qui ne l'avais pas encore trouvé à l'âge de 30 ans. Enfin, j'avais la réponse à toutes mes questions, les réponses de la Bible. Enfin, j'ai reconnu que j'étais une pécheresse perdue. Je me suis repentie. J'ai changé de direction dans ma vie. J'ai décidé de me détourner de ma vie de péché et de me tourner vers Jésus. Et je lui ai demandé de me sauver, de me donner la vie éternelle. Et savez-vous quoi? Il l'a fait. Et maintenant, j'ai une relation personnelle et intime avec ce Jésus merveilleux. Il est mort sur la croix pour moi. Il est ressuscité le troisième jour. Il s'est assis à la droite du Père où il intercède pour moi. Et je sais que je vais passer l'éternité avec lui. D'ailleurs, j'ai déjà la vie éternelle, simplement parce que je crois en Jésus. Mon ami, cette merveilleuse vie est pour toi aussi. Paul nous dit dans le troisième chapitre de son épître aux Romains, au verset 23, que tous ont péché, tous, sans exception. Alors repens-toi, change de direction à l'égard du péché et reçois Jésus comme ton sauveur. Il n'est pas juste mort pour l'humanité entière en général, il est mort pour chaque individu personnellement, il est mort pour toi personnellement. Reçois-le comme ton sauveur et reçois-le comme ton Seigneur, comme ton maître, ce maître doux et humble de cœur qui va te transporter dans l'éternité le jour où tu vas quitter cette terre. Reçois-le maintenant, n'attends pas à demain. Tu ne sais pas si tu vas vivre demain. Jésus veut être ton sauveur en ce moment même.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question.
j'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.